sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 10h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. L'attaque a atteint tous ses objectifs. Les mots du chef des forces armées iraniennes après l'attaque dans la nuit contre Israël. L'Iran a lancé plus de 300 drones et missiles en direction de l'État hébreu. Une offensive qui a été déjouée selon l'armée israélienne. Une attaque qui a été largement condamnée à l'international, à commencer par la France. Le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, estime que l'Iran a franchi un nouveau palier dans ses actions de déstabilisation et prend le risque d'une escalade militaire. Et puis notez enfin que le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir en urgence aujourd'hui comme les dirigeants du G7. Dans l'actualité également en France, cette terrible découverte dans le Val-de-Marne. Des ossements humains ont été retrouvés le week-end dernier par des promeneuses dans une forêt de la commune de Noiseau. Il s'agissait d'un fémur et d'un os iliaque humain après analyse. La police a ensuite réalisé des fouilles sur place et a découvert des vertèbres lombaires. Des restes humains qui appartiennent à un homme âgé de 20 à 45 ans. Une enquête est en cours. Un trou de 30 mètres carrés de près de 15 mètres de profondeur. Le sol d'une ancienne mine d'uranium s'est effondré en Saône-et-Loire sur la commune de Grury, près de Guignon. Ce site a cessé toute activité depuis plusieurs décennies. L'évaluation des risques a démontré qu'il n'y avait pas de concentration significative, indique la préfecture. Une analyse plus poussée des données du site va être réalisée. En attendant, un arrêté municipal d'interdiction de pénétrer sur l'ensemble du périmètre élargi a été pris par le maire. En foot, suite de la 29e journée de Ligue 1, cet après-midi, seulement 3 matchs au programme. Le Havre accueille Nantes à 13h, Clermont-Montpellier à 15h. Et puis ce soir, l'Olympique Lyonnais reçoit Brest à 20h45. Et puis c'est encore un coup dur pour Kingsley Coman. L'attaquant français du Bayern Munich s'est blessé hier à l'adducteur droit face à Cologne en Bundesliga. Il sera absent plusieurs semaines selon son club et pourrait donc manquer l'Euro cet été. Belle matinée à tous.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+.
Radio Aviva, à Montpellier, Vendargues et Cournon-Terral, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com. Fragment d'histoire, Algérie, Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva.
Rapatriés, harkis, appelés, ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.
Marguerite Dauty, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes professeure de lettres à la retraite, retraite que vous avez choisi de passer à Montpellier, ville où vous aviez déjà enseigné dans les années 70. Vous êtes née à Alger en 1941 et vous avez vécu votre enfance et votre jeunesse dans le fameux quartier populaire de Bab El Oued. Vous n'êtes jamais retourné en Algérie.
C'est tout à fait exact. Je ne suis jamais retourné en Algérie et je ne pense pas que j'y retournerai.
Pour quelle raison ?
Parce que d'abord, j'habitais un quartier populaire et à partir de essentiellement occupé par des Européens d'origine diverse, espagnols, italiens, maltais, des Juifs, quelques Arabes. Et toutes ces personnes sont parties. Donc je ne retrouverai personne que je connaisse. Je ne retrouverai que peut-être des maisons et puis le cimetière où ma famille, mon arrière-grand-père, ma grand-mère, mes grands-oncles et grandes-tantes, ma sœur, mes grands-pères sont enterrés. Mais je n'ai rien d'autre là-bas.
Depuis quand votre famille vivait en Algérie ?
Alors, mon arrière-grand-père, du côté paternel, est arrivé dans les années 65-70. C'était un Italien de Ligurie qui travaillait dans les chantiers navals et qui allait là où il y avait du travail. L'Algérie était en plein essor et c'était l'occasion pour lui d'avoir des chantiers, de bien gagner sa vie. Donc il est parti avec un ami. Quand ils ont trouvé le travail et ils ont été installés dans le quartier de la Marine, ils sont allés chercher la sœur de l'ami, la maman de l'ami, la sœur est devenue mon arrière-grand-mère. Ils étaient jeunes, elle je crois qu'elle avait 17 ans, et lui en avait une vingtaine. Donc c'était un jeune couple qui s'est installé et qui a eu 9 enfants. Parce que à l'époque, on avait des enfants et elle en était très heureuse. Ma grand-mère est née en 80, en 1880. Et l'aîné était né en 1870 et le dernier en 1890. Bon, il se déplaçait, il ne restait pas à Alger seulement, il s'était déplacé à Philippeville. C'est ainsi que ma grand-mère est née à Philippeville, ainsi qu'un de ses frères. Autrement, tous les autres sont nés à Alger. Et ont vécu très heureux à Alger.
Et dans l'autre branche de la famille ?
Alors l'autre branche, ce sont les Français. Ils sont purement Français. Mon grand-père était des choix. Ma grand-mère, ariégeoise. Ils sont arrivés en 1913 en Algérie, donc beaucoup plus tardivement, avec leur trois petites filles. Et en 1914, mon grand-père est parti à la guerre. Donc ma grand-mère est restée seule avec ses trois filles, ne connaissant personne et devant se débrouiller seule. Mais elle n'en gardait pas un mauvais souvenir parce que toutes les voisines qui étaient espagnoles, italiennes, tous étaient dans la même situation qu'elle. Et donc, c'était une joyeuse bande. Maman disait qu'elle s'était beaucoup amusée en l'absence de son père. Mais à Babeloued, c'était ça. C'était une vie, non pas en communauté, n'exagérons rien, mais les portes étaient souvent ouvertes, les fenêtres aussi, et tout le monde parlait, braillait, il y avait de la musique partout. C'était une population gaie et joyeuse.
Vous parlez de Babeloued, justement, je ne résiste pas à vous demander de décrire le quartier un peu plus en détail, s'il vous plaît.
Ah, le quartier, d'abord, c'était des constructions de type un peu bourgeois, globalement. Des maisons solides. Alors, il y avait différentes zones dans ce quartier. Là où j'habitais, c'était un coin où il y avait des Italiens. Uniquement parce que le quartier de la Marine, où mon arrière-grand-père avait trouvé à se loger, avait été devenu insalubre. C'était au pied de la Casbah et ce n'était plus possible. Et on a construit à ce moment-là des immeubles, des HB, ce qu'on appelait les HBM, qui avaient tout le confort, c'est-à-dire l'eau courante, la douche, un nombre de pièces suffisant pour les familles nombreuses. Et si vous voulez, c'était quelque chose d'extrêmement moderne. Bon, dans ce coin, donc là c'était le quartier italien. Après il y avait le coin, ce qu'on appelle la Basseta, qui était le plus vieux quartier dans Babeloued, où c'était essentiellement des Espagnols, les cigarières, c'est-à-dire les femmes qui faisaient les cigares, parce qu'il y avait justement à Babeloued des usines de tabac. Et mon grand-père, quand il était arrivé de France, de Marseille, a travaillé dans une usine de tabac et a été logé justement dans un petit immeuble construit pour les employés de l'usine. Après, il y avait les quartiers un peu plus, ou je dirais, il y avait un peu plus de population juive. Du côté de la rue Livingston, ceux qui connaissent Babeloued situeront, il y avait un peu plus juifs, mais globalement, nous étions quand même mêlés. Mais avec une concentration plus, quand même, par origine, non pas ethnique, mais de langue et d'habitude de vie. Ce quartier était un quartier très commerçant. Il y avait tous les commerces. On pouvait vivre sur Babeloued sans avoir besoin d'aller, ce qu'on disait, en ville, c'est-à-dire du côté de la rue Disney, la rue Michelet, etc. On avait pour l'habillement, pour les bijoux, pour les meubles, pour absolument tout. On avait des lycées, le lycée de jeunes filles Savagnan de Braza, dans lequel j'ai fait mes études. Le lycée de garçons, le lycée Bugeaud était à la Lisière. C'était pas Babeloued, mais il était à la la lisière. Il y avait le lycée Guillemin pour les garçons et il y avait toutes les cours complémentaires. Il devait y en avoir au moins 5 ou 6. C'est-à-dire que là aussi, la population pouvait être instruite. Et en Algérie, on tenait beaucoup à l'instruction. Bon, je ne dis pas que tout le monde faisait des études, mais il y avait quand même des gens qui étaient modestes dans leurs revenus, qui avaient une culture peut-être peu développée, même dans leur culture d'origine, tenaient à ce que leurs enfants aient une vie meilleure et les poussaient à faire des études, les poussaient à l'école. Bon, d'un autre côté, il y avait du travail. Alors, ceux qui ne voulaient pas étudier, eh bien, on les mettait au travail dès 13 ans. C'était sans hésitation aucune. Et ils étaient heureux aussi. Bon, il y avait des cafés. Alors ça, c'était un point important à Bab El Oued. Parce qu'on sort, comme dans tout quartier populaire, en sortant du boulot, quand on a bien trimé, ben, on aime bien aller prendre un petit verre, discuter avec les copains. Alors nous, évidemment, c'était manger la kémia. Ça, ils ne s'en privaient pas, mais c'était réservé aux hommes. Nous sommes quand même en Algérie, en Méditerranée, les femmes ne vont pas au café, sauf accompagnées. On avait des brochettes aussi, les bonnes brochettes, entre l'avenue de la Bouzaria et l'avenue du Rando. Il y avait un marchand de brochettes qui était excellent. Il y avait les beignets arabes également, chez Blanchette, à Bab El Oued. On avait un marché aux légumes superbe qui était très, très reconnu. Et tous les gens de Saint-Eugène, Pointe-Pescade, venaient le dimanche, c'était la promenade, ils venaient faire le marché à Bab El Oued, ce qui fait qu'il y avait une cohue pas possible. Donc, un quartier où j'étais heureuse, mais je ne me rendais pas compte. Hein. Quand j'allais en ville, c'est-à-dire rue Michelet, rue d'Isly, que j'allais à Elbiar, bon, je voyais bien que c'était différent, mais enfin, ça ne me gênait en aucune manière. Et j'étais très heureuse dans ce quartier.
Comment a réagi votre famille au déclenchement du conflit le 1er novembre 54?
Alors, bon, le 1er novembre 54, j'avais 13 ans. Je venais d'avoir 13 ans. Donc, pas dire que j'avais pas de conscience politique. J'avais entendu parler de la guerre, bien sûr, des guerres, puisque mon oncle avait fait le débarquement de Provence. Mon père, lui, était avec les Anglais. Donc, je savais ce qu'était une guerre. Mais ça ne me paraissait pas la même chose. Ça ne pouvait pas être pareil, à mes yeux. Quant à mes parents, je me souviens de les avoir entendus dire « faut se souvenir de Sétif », des événements de Sétif de 1945. Mais enfin, bon, devant moi, ils ne discutaient pas trop de cela. Et ils pensaient que, de toute façon, la France était suffisamment puissante pour nous tirer d'affaire.
Le conflit a quand même eu un impact sur le quotidien. Quel impact sur votre quotidien? Quels souvenirs peu plus marquants que d'autres?
Sur mon quotidien immédiat, aucun. En 54, 55, bon, il y avait des événements, on lisait dans les journaux les attentats, les fermes attaquées, les poteaux de télécommunications sciés, les arbres sciés. Bon, et on a continué à vivre. Sauf que, petit à petit, la vie est devenue plus rétrécie. Les messes, il n'y avait plus de messe de minuit, par exemple, pour tout ce qui était le soir, c'était supprimé. Bon, le cinéma, on y allait plutôt en journée que le soir. Et petit à petit, si vous voulez, notre vie... la vie libre qui était celle que nous vivions avant 54, s'est rétrécie.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant, plus l'un plus que l'autre, de cet épisode-là? Vous m'avez un petit peu parlé de la bataille d'Alger.
De cet épisode-là, même, non. Ce dont je me souviens, c'est davantage dans les années 56-57. D'abord, j'avais pris un peu d'âge, j'avais grandi. Il y avait eu la fin de la guerre d'Indochine en 54. Je voyais, habitant près de l'hôpital Maillot, je voyais des soldats, et essentiellement des légionnaires, sortir de l'hôpital Maillot, sanglés dans leur beaux uniformes, mais avec un bras en moins, une jambe en moins, estropillés. Ça commençait à me poser des... J'avais lu également sur les journaux qu'on n'avait pas embarqué les supplétifs qui suppliaient qu'on les emmène, qui essayaient de confier les enfants. Et ça m'avait un peu bouleversée. Je trouvais que c'était... Donc je commençais à me poser la question de savoir si nous aussi nous allions avoir le même genre d'événements, si nous allions vivre le même genre de choses. Alors, en 1956, il y a l'enterrement de Damier Desfrogé. Par hasard, avec maman, nous rentrions de Sainte-Eugène, où nous étions allés voir ma tante, et nous sommes tombés sur les obsèques Damier Desfrogé. Ce qui était absolument incroyable. Une foule considérable, essentiellement des hommes, et ce n'était pas ce que je voyais à Alger habituellement, c'était tous les colons. Mais les colons, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'un colon, c'était un agriculteur en définitive. Moi, avec mes débuts de culture classique, le colon, c'était le colon grec, le colon romain. Et là, j'ai vu, c'était des agriculteurs comme ceux que j'avais vus en France en 48, c'est-à-dire des paysans. Ça m'avait surprise. C'était absolument impressionnant, parce que là, c'était près du cimetière, et un silence de mort, c'est le seul et unique mot qu'on peut employer. Alors, je sais qu'il y a eu des ratonnades, je ne les ai pas vues, je n'ai assisté à aucune violence, je n'ai vu que le recueillement. Pour le reste, je ne nie pas, mais je ne sais pas. C'est pas du vécu, ce n'est que de la lecture.
Par contre, vous avez vécu avec votre famille le blocus de Bab el-Oued en mars-avril 62. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette expérience un petit peu traumatisante, si j'ose dire?
Oui, alors là, nous sommes en 62. C'est-à-dire que le 19 mars annonce des accords d'Évian. Bon, nous avions compris que les choses étaient fichues pour nous, mais toujours sans le digérer. C'était intellectualisé, mais pas digéré. Et donc, nous avions des vacances scolaires, alors que les vacances de Pâques, nous avons, les avons eues à ce moment-là, alors que Pâques était le 22 avril. Mais il y avait eu une mesure spéciale pour nous. On nous avait dit de rester à la maison. Nos professeurs originaires de métropole, il n'y a pas d'autre mot, se sont enfuis. Certains ne sont pas revenus d'ailleurs, après. Et quelques-uns sont restés, et dont un monsieur, dont je peux dire le nom, il est décédé, mon professeur de grec, monsieur Lespinasse, qui s'est occupé de nous pour notre départ d'Alger. Mais j'en reparlerai plus tard. Et le 19 mars, nous sommes en congé, l'atmosphère est horriblement pesante. Les soldats sont muets, il n'y a pas d'autre mot. D'habitude, ils rigolaient toujours quand ils étaient dans leur camion ou même quand ils patrouillaient, ils jetaient un œil ou ils faisaient un petit sourire. Là, il n'y avait plus rien de tout ça. Et il y a eu un incident sur un peu plus loin que mon quartier, il y a eu un incident et des soldats, c'était terrible, ont été tués. Tout le monde avait peur, tout le monde était non pas excité, mais sur le qui-vive. Et là, nous avons été bouclés, c'est-à-dire le vendredi 23, nous avons été bouclés. Bab el-Oued encerclé par des blindés. Les blindés ont circulé dans toutes les rues en tirant sur toutes les façades. Les voitures qui étaient garées, qui ne gênaient personne, ont été écrasées par ces blindés, c'est-à-dire que vous pouviez facilement avoir, voyez, une traction avant ou une Peugeot réduite à une hauteur comme ça. Le blindé avait fait son œuvre. Et lorsque ça s'est déclenché ce 23. Moi, j'étais chez moi, en train de travailler, puisque j'étais censée préparer un concours. Et là, j'ai entendu des coups de feu. Je regarde par la fenêtre et je vois en face de chez moi des jeunes gens sur un toit en train de sortir des armes. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait plein de garçons du coin qui étaient impliqués dans l'OAS et qui ont fait le coup de feu, qui ont essayé de résister pour réagir à ces accords déviants. Nous avons eu le couvre-feu, nous n'avions qu'une heure pour sortir le matin, de 7h, il me semble que c'était de 7h à 8h, ou de 6h30, 7h30, quelque chose comme ça, pour aller faire les courses au marché. Et bien sûr, je ne dis pas qu'on n'a pas manqué de nourriture, hein, mais... il y a les marchands arabes qui étaient les principaux commerçants du marché n'étaient plus venus. On pouvait comprendre. Les autres tiraient le rideau plus ou moins parce qu'ils ne tenaient pas du tout à se faire flinguer. Et donc, nous avons fait avec maman rapidement les petites courses. Et puis, nous n'avons plus bougé de la maison parce que nous avions ordre de garder les volets fermés. Bon, ce qui était quand même un vœu un peu pieux, parce qu'on avait tendance à monter sur la terrasse pour aller jeter un œil, voir ce qui se passait. C'est comme ça qu'on a vu un avion foncer sur nous pour nous mitrailler. Donc, on a compris que les choses étaient très très sérieuses, qu'il fallait faire attention. C'est le 23, le 24, le 25, le 26, toujours bouclé. Et là, le 26, c'était notre tour de perquisition. Donc là, perquisition, tout le monde bloqué dans les appartements, les portes ouvertes avec énergie. Bon, on a préféré l'ouvrir nous-mêmes. Et là, c'était les gardes mobiles, ce n'était pas l'armée. Et les gardes mobiles étaient des gens plutôt brutaux. Bon, ils avaient peut-être un compte à régler avec nous, les pieds noirs, mais quand même, ils ne se conduisaient pas comme des soldats. Ils se sont conduits plutôt comme des voyous. Il y en a un qui avait plaqué maman contre le mur de la chambre et qui avait sorti son poignard de combat et faisait le tour du cou de maman avec cela, pendant que les autres fouillaient dans l'armoire, le buffet, etc. Le voisin, qui était un jeune garçon qui revenait du service 30 mois à Tindouf, c'est-à-dire dans le sud algérien, était un garçon malingre. Ils l'ont sorti par le col à coups de pied, ils l'ont battu pour le faire descendre plus vite. Donc, là, cette brutalité m'avait profondément choqué, parce qu'elle était... c'est pas inhumain, c'est un refus de respecter un être humain qui était peut-être dans son tort, c'était leur droit de le penser, mais ce n'était pas acceptable. Donc tous les hommes sont descendus dans la tenue où ils étaient, c'est-à-dire en pyjama, en marcel, les pieds nus ou les pieds avec des espadrilles, sauf mon père qui, lui, a pris son costume, comme d'habitude, il était déjà en costume, mais il a pris sa veste croisée, son chapeau, et descendu pour se faire embarquer. Mais là, il y a un officier de l'armée, lui, qui est passé, qui lui dit « Mais que faites-vous là, monsieur ? Vous n'allez pas attendre, mais remontez chez vous, ne restez pas là !» Donc, papa est remonté, il était le seul homme de tout l'immeuble, ce qui n'a pas été apprécié des voisins. Mais on n'a pas fait exprès. Là, tous les garçons sont partis, tous les hommes, jeunes ou vieux, et on les a emmenés à Benimessous ou d'autres camps, en les faisant stationner dans les quartiers arabes, où ils étaient insultés et bombardés de pierres. Ça a été, pour moi, ça a été une épreuve, quelque chose de très difficile à oublier.
Quels étaient les sentiments envers l'OAS à Bab el-Oued?
À Bab el-Oued, eh bien, j'ai découvert Parce que, bon, j'étais de Babeloine, mais étant fille unique, n'ayant pas de frère, j'étais tout de même un peu en dehors. Et j'ai découvert que les gens étaient tous. Et moi aussi, j'étais inconditionnellement pour l'OAS. Parce que quand je pense qu'on nous reproche d'être responsable du départ, de la catastrophe, on reproche à l'OAS, ce n'est pas vrai. Le départ, c'est parce qu'on ne voulait pas rester, on voulait pas devenir algérien. Nous n'arrêtions pas de hurler depuis 7 ans, Algérie française, nous voulions être français. Donc, c'était pas pensable de devenir algérien. Peut-être, maintenant je me dis que peut-être on a eu tort, je ne sais pas.
Est-ce que vous pouvez nous raconter dans quelles conditions vous quittez Alger en 62, grâce à votre professeur de grec,
voilà,
que vous avez mentionné?
Alors, en 62, donc, nous avons repris les cours avec les professeurs qui étaient encore là. Notre lycée était à moitié occupé par l'armée, donc beaucoup d'élèves n'avaient pas repris. Et pour passer les examens, personne ne savait comment cela allait se dérouler. Ça paraissait invraisemblable d'organiser des examens normaux dans les conditions où nous étions. Donc, mais il y avait les concours que l'on passait avec la France métropolitaine. Donc là, il courait le bruit que l'on allait nous regrouper tous dans un secteur pour que nous puissions passer nos examens, enfin nos concours. Mais en fait, c'était surtout, je pense, surtout pour nous surveiller. Et ainsi, le professeur de grec, qui avait des connaissances à Rocher Noir, s'est débrouillé pour nous avoir des billets. Et nous sommes partis, une dizaine, le lundi 7 mai. Moi, j'étais dans ce groupe. Et nous sommes partis à Marseille. Et puis, après, nous devions aller à Toulouse, où nous étions attendus par le recteur, M. Capdecome, qui a été remarquable pour nous. Et puis, il y a eu un autre groupe, le reste de la Cagne, d'Alger, qui est parti vers Paris. Et c'est grâce à ce professeur que nous avons échappé à l'horreur de ces départs. Enfin, en masse, et ces départs précipités dans le désespoir.
Donc c'est en fait le 7 mai 62 que vous voyez l'Algérie pour la dernière fois, et vos parents vous interdisent de revenir.
Oui, parce que nous avions tous notre billet de retour. Donc, moi j'avais toujours pensé que je retournerais. Je suis partie soulagée, parce que c'était trop pesant, mais en même temps, je ne pouvais pas admettre que je ne retournerai jamais. Donc, j'ai voulu y retourner. Alors là, il y a eu une interdiction formelle de mes parents, parce que les choses devenaient extrêmement violentes, et l'insécurité était totale, et ça, je comprends qu'il n'ait pas voulu. Mais je n'ai jamais dit au revoir à l'Algérie.
Notre entretien touche à sa fin. Je vais vous poser une dernière question concernant l'accueil des métropolitains que vous avez reçu en France.
Alors l'accueil, comme la plupart, je n'ai pas eu l'impression d'être attendu, sauf, comme je l'ai dit, par M. Capdecome, qui a tout fait pour nous faciliter la vie, nous loger et nous permettre d'aller au Resto U. Mais par contre, les jeunes de notre âge ont été dans l'ensemble odieux, et les filles avec qui je me suis retrouvée à la maison des étudiantes à Toulouse ont été particulièrement odieuses, ne nous laissant rien dans les plats pour le repas.
Peut-être que vous voulez évoquer une chose dont nous n'avons pas parlé pendant l'interview, donc je vous laisse le mot de la fin.
Oui, j'aimerais parler de l'agression dont j'ai été victime en avril 62, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de jours avant mon départ. J'avais attrapé la main d'un petit yaouled qui essayait de faucher le porte-monnaie, et il s'est mis à hurler, ce qui a valu un attroupement, et on a commencé à me tabasser. Et lorsqu'une patrouille est passée, une patrouille de soldats français est passée, un soldat s'est mis à crier « mon lieutenant, il faut faire quelque chose ». Et le lieutenant a répondu qu'ils se débrouillent entre eux. J'avoue que cela m'est toujours resté un peu sur le cœur, même beaucoup sur le cœur.
Merci beaucoup, Madame Doty.
Je vous remercie d'avoir bien voulu recueillir mes souvenirs.
C'était Fragments d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva.
Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.
Radio Aviva.
Bon week-end.
Bon week-end.
Marcher dans le sable, se sentir coupable.
Western avec Marc Olry de Lost Film. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors vous ressortez en salle un classique ironique du western italien, Mon nom est personne. Alors rappelez quand même que Lost Film existe depuis 15 ans et que ce n'est pas votre premier essai de restauration de films de patrimoine.
Non, c'est ça. En 2009, on était en 35 mm. Quelques années plus tard, le numérique s'est imposé un petit peu partout. Mon premier film en numérique, c'était une restauration d'un film grec qu'on ne pouvait pas trouver à l'époque, qui s'appelle Stella, femme libre, de Kakoyanis, le premier film avec Mélina Mercouri. Et là, ce film, je l'ai découvert. Enfin, je me suis penché dessus parce que j'anime un ciné-club autour d'Ennio Morricone et que je pensais à un moment ou à un autre, dans le cadre de ce ciné-club, passer Mon nom est personne. C'est un film qu'on me réclamait récemment. Et le film est distribué, enfin, et l'ayant droit, c'est Studio Canal. Je savais qu'il existait une copie 35 mm. Mais en discutant avec eux, ils m'ont indiqué qu'une restauration allait arriver, qu'ils allaient mettre la main sur une restauration italienne. Le film était restauré par une des filles de Sergio Leone à Bologne, à l'Imagine Ritrovata, qui est un des plus grands laboratoires, en version 4K, et c'est une production italienne, donc en VO italienne. Et je me suis dit voilà, qu'il fallait absolument que je le ressorte en salle plutôt que de faire une simple séance de ciné-club. Et depuis, c'est un petit peu un bonheur complet parce qu'il y a une vraie cote d'amour autour de ce film et beaucoup, beaucoup d'exploitants que j'avais même jamais rencontré, qui m'avait jamais contacté depuis 15 ans, qui ont envie de ce film.
Voilà, c'est un film qui sort en 73, qui est effectivement particulier, et qui a un sens de l'ironie propre à la comédie italienne. Peut-être donner le pitch rapidement pour ceux qui ne l'auraient pas vu.
Oui, alors c'est un film qui est un peu dur à raconter, mais qui est très simple. En fait, je pense qu'il y a plein de portes d'entrée dans ce film-là. C'est un western spaghetti ou italien, comme on dit. Hein. On est en 73, donc ça fait déjà un petit moment que Sergio Leone a fait naître le genre, on va dire, avec pour une poignée de dollars. Mais là, on est dans un western qui se décline un peu plus vers l'humour et l'ironie. Et donc, ces deux personnages, en fait, c'est une espèce de duel ou de passage de témoin, j'ai envie de dire, entre deux personnages, un vieux cow-boy pour aller vite et un plus jeune. Donc, c'est Henry Fonda versus Terence Hill. Et c'est vrai que, pour résumer, c'est un jeune cow-boy qui rencontre sa légende. Et on est évidemment dans toutes les valeurs développées par d'autres réalisateurs comme Ford, évidemment, et son fameux imprimer la légende ou la réalité. Évidemment qu'il faut garder la légende. Et lui, il veut que son héros rentre dans la légende, on va dire, pour aller vite, en affrontant une horde sauvage de cow-boys qui font s'aimer la terreur dans l'Ouest américain. Et c'est un western où, j'ai envie de dire, contrairement aux autres films de Leone, y a des coups de feu, mais il n'y a pas de traces de sang. C'est deux personnages qui s'affrontent, mais plus verbalement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humour. Et puis il y a beaucoup aussi le côté comédia dell'arte. Hein. C'est vraiment ce qu'aimait Leone quand il était gamin aussi. Même si là, il est simplement producteur du film et à l'origine du scénario.
Alors il y a une légende qui dit que le film est attribué à Tonino Valeri, qui n'a pas fait grand-chose après, je crois.
C'est un réalisateur. Enfin, c'est un réalisateur qui avait déjà fait quelques films et qui était un ancien assistant de Leone. Il avait été son premier assistant sur Pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus. Mais c'est vrai que ce film, la paternité est un peu dure à cerner. Il y a plein de légendes autour, justes ou fausses, qu'on aille sur des sites ou sur des fiches de sites de cinéma. Moi, j'ai envie de m'attacher aussi aux bonus qui ont été faits, parce qu'il y a une double édition, il y a un Blu-ray, puis il y a un double DVD avec plein de bonus. Il y a plus d'une heure et demie de bonus qui avait été réalisé il y a une dizaine d'années par Christophe Gans, notre réalisateur français et ancien journaliste de Starfish, qui est un de ses films fétiches. Il avait vraiment pris le temps de rencontrer et d'interviewer Tonino Valeri et aussi ses scénaristes, ses producteurs. Et c'est vrai que Tonino Valeri, le pauvre, doit se justifier sans arrêt d'avoir réalisé ce film, alors que beaucoup de gens lui donnent attribuent le film beaucoup aussi à Sergio Leone, qui était producteur et à mon sens certainement beaucoup, beaucoup sur le plateau. Mais c'est vrai que selon les livres, les interviews, les personnes ou les points de vue, il y a des gens qui disent que c'est Leone qui réalisait la plupart des choses. Je pense qu'en fait, il avait le sens du détail, qu'il a beaucoup, beaucoup influencé sur un certain nombre de choses. Et surtout, on est aussi dans des films qui se faisaient un petit peu à la chaîne, c'est-à-dire que le salon qu'on voit, les décors qu'on voit, c'est des films, des décors qui appartenaient à Leone. La voie ferrée et la locomotive, c'est celle qu'il avait achetée et qui servait dans toutes ses productions. Et comme d'habitude, on a à la fois de l'italien à Cinecittà pour les intérieurs et des extérieurs en Espagne, et ces décors qu'on a eu l'habitude de revoir dans ses anciennes productions, dans sa trilogie du dollar ou dans Il était une fois dans l'Ouest.
Alors le film est magnifique, Henry Fonda est splendide, et on a quand même Terence Hill. On peut dire que c'est un film qui a lancé la carrière de Terence Hill ou pas ?
On est à un moment où Terence Hill explose en fait aux yeux du monde, j'ai envie de dire, parce qu'il a déjà un vrai passé de comédien et de second rôle. On l'a vu dans des films un peu plus prestigieux. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est un des bons amis de Delon dans Le Guépard de Visconti, avec une petite moustache blonde. Et il a plusieurs séquences en commun. Et il avait participé à d'autres films de grands réalisateurs italiens au début des années 60. Mais c'est vrai qu'avec la vague de ce genre, le western, on va en produire quand même des centaines sur une dizaine d'années de western italiens, il commence aussi à percer. Et à la fin des années 60, il fait son premier western avec son complice Bud Spencer. Et avec aussi tout un tas d'autres comédiens qui émergent, hein, c'était des seconds rôles, des trognes qu'on voit, qu'on revoit, et puis tout le monde devient des grands comédiens, que ce soit des étrangers comme Klaus Kinski ou Lee Van Cleef qui arrivent dans ces productions européennes, ou évidemment Gian Maria Volonté qui fait un des méchants dans plusieurs films de Leone. Et là, juste avant Mon nom est personne, qui date de 1973, il y a deux films, Trinita, et on continue de l'appeler Trinita, qui cartonnent en Italie et en Europe, et qui font même plus d'entrées que les propres westerns italiens de Leone. Et c'est vrai que face à ce succès-là, Leone, qui lui veut déjà un petit peu arrêter depuis un moment le western, même s'il avait remis un peu le couvert sur Il était une fois la Révolution, lance la production de ce film. Et en lançant ce film-là, non seulement il reprend la légende de Ford, sa légende qu'il avait réussi enfin à avoir dans Il était une fois dans l'Ouest, Henri Fonda, mais il prend ce comédien qui cartonne, qui insuffle beaucoup d'humour avec Bud Spencer, et donc c'est lui qui, je pense, à mon sens, est la vraie star, ou le personnage central qui est le fil conducteur de tout Mon nom est personne, même si internationalement c'est Henri Fonda qui est une star, lui, depuis déjà 30 ans.
Voilà, alors l'affiche pour la ressortie met bien en avant les deux personnages avec la robe sauvage, donc c'est magnifique. Alors on invite les gens à le revoir en salle, peut-être, enfin surtout en salle, avec l'idée qu'on peut même faire voir un méta travail sur le cinéma, un méta regard sur qu'est-ce que c'est qu'être un réalisateur de films aujourd'hui. Enfin, et puis la morale est magnifique. Voilà. Comment les auditeurs peuvent savoir un petit peu les ressorties dans le sud de la France et ailleurs?
Oui, ben le film est donc sorti le 20 décembre dernier, avec déjà beaucoup d'avant-premières qui avaient eu lieu pendant l'automne. Et il continue de tourner. Là, c'est vrai qu'il n'a pas encore été programmé à Montpellier. En général, c'est à l'Utopia Montpellier. Il y a plein de salles avec qui j'ai l'habitude de travailler aussi qui n'ont pas encore programmé, comme Nîmes, le Sémaphore ou Perpignan. J'espère que ça ne va pas trop tarder. Là, c'est marrant, dans une autre partie du Sud, il était joué hier soir à Cannes, dans la nouvelle salle à côté du Grand Palais de Cannes qui s'appelle le Cinéum. Et c'était une séance unique avec une centaine de spectateurs. Donc ça fait vraiment plaisir parce que quand la séance est bien annoncée, les gens sont au rendez-vous.
Il y a du monde, voilà. Ça fait plaisir. Donc, vous avez un site internet?
Oui, c'est ça, le site, la page Facebook. Toutes les semaines, je mets à jour les séances et les salles qui jouent le film.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre passion du cinéma de patrimoine et au plaisir.
Merci beaucoup.
Mais si tu dépenses pas, grand chef, si tu dépenses rien, t'es quoi? Hein? T'es quoi?
J'aime retourner dans le noir et contempler le visage des autres spectateurs.
C'était Cinéculte pour redécouvrir les grands classiques du cinéma.
Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
Retrouvez-moi tous les jours à 14h pour 30 minutes coups humains de recommandations culturelles, de portraits au long cours, de collages sonores et de musique éclectique.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là. Pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerais rien. De nous j'ai tout
passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois. Et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas.
Cinéma Viva, cinéma, l'univers du cinéma sur Aviva.
J'ai le grand plaisir d'accueillir Louana Bajrami qui vient de réaliser son deuxième long métrage Notre Monde. Alors c'est un film qui a été tourné au Kosovo. Bonjour Louana, est-ce que vous voudriez nous faire une petite présentation de votre film ?
Bonjour, alors donc Notre Monde, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, deux cousines, Zoé et Volta, qui décident de s'enfuir de leur village pour tenter une nouvelle vie, en tout cas s'ouvrir une perspective en allant étudier à Pristina, à l'université. Il s'avère qu'on est en 2007, en pleine période un petit peu floue pour le Kosovo, en attente de son indépendance.
Et alors l'idée, c'est de montrer peut-être l'espoir dans un premier temps de cette jeunesse, mais en fait du peuple du Kosovo finalement, de le traduire et de le montrer au monde entier, et de montrer les difficultés qu'elles vont rencontrer.
Bien sûr, c'est finalement leur rêve en fait qui se confronte à la réalité, aussi dure soit-elle. Et c'est surtout cet amour fraternel qui les unit. À quel point est-ce qu'il est mis à l'épreuve dans ce grand changement, ce grand saut dans le vide qu'elles font.
Elles vont quitter leur famille. Elles font preuve d'un grand courage. Et elles vont rencontrer, puisqu'elles seront logées en cité universitaire, elles vont rencontrer des jeunes de leur âge qui, eux, peut-être sont un petit peu moins optimistes qu'elles, qui sont déjà là depuis un an ou deux.
Oui, c'est vrai qu'elles se confondent tout de suite à une forme de scepticisme qui gangrène un petit peu le quotidien de tous ces jeunes qui sont dans l'attente de toute façon. Et c'est vrai que c'était intéressant pour moi de raconter cette errance, en fait, il les plonge dans une abîme un petit peu sombre, c'est vrai.
Ce qui m'a frappé, c'est que au départ, elles ont envie de quitter leur famille pour aller à l'université, passer un diplôme et pour enfin accéder à un métier, une façon de s'élever socialement. Et très vite, le rêve va être un petit peu brisé.
Ah oui, elles se prennent un mur, littéralement. Et ce qui est dur, c'est comment est-ce qu'on se relève ? Qu'est-ce qu'on envisage de nouveau ? Et elles ne peuvent plus retourner au village puisqu'elles se sont enfuies. C'est pas une option. Et donc, c'est difficile pour elles. Mais c'est... Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Notre plan tombe à l'eau. On n'a pas d'autre idée. Il n'y a pas d'autre perspective. Qu'est-ce qu'on peut bien faire ?
Alors, c'est vrai que ce phénomène, on peut l'observer dans bien d'autres pays, dans le monde entier. Malgré tout, il y aura une lueur d'espoir. En tout cas, il y a peut-être un regard plus artistique puisqu'elle rencontre une danseuse qui est voisine de chambre et qui va lui montrer une autre voie. Et pourquoi pas, d'ailleurs ?
Oui, pourquoi pas, tout à fait. Elle lui montre par son mode de vie, elle présente une forme de liberté qui forcément est attrayante et fascinante. Et c'est Zoé d'ailleurs qui va plonger dans cette dynamique-là. Mais en fait, elle rencontre beaucoup de jeunes différents, elle rencontre beaucoup de parcours de vie finalement et beaucoup de réactions face à cette réalité-là.
Et donc la danseuse professionnelle, en fait, qui est sûrement aussi étudiante en parallèle, surtout elle a plus de problèmes financiers. Et c'est ce que ça peut inspirer, c'est ce qui peut lui donner cette envie de suivre son chemin.
Oui, c'est vrai que Zoé, elle se rend compte et elle dit d'ailleurs à sa cousine « Qu'est-ce que tu veux faire ici sans argent ? On ne peut rien faire, on n'est rien. » Il y a cet aspect compliqué de gestion économique, en fait, parce qu'elles ont pris une indépendance anticipée, quelque part, et forcément, il faut qu'elles subviennent à leurs propres besoins. Et quand elles se rendent compte que le parcours qu'elles s'étaient dessiné, à savoir... le diplôme, le métier qui suit, etc., n'est plus une option. Forcément, on cherche d'autres solutions.
Parce qu'il faut expliquer, alors sans raconter tout le film, mais elles viennent avec un projet d'études et puis elles se rendent très vite compte, enfin tous ces jeunes se rendent compte que finalement elles font leur rentrée à l'université et qu'il y a toujours un taux d'absentéisme des professeurs qui est énorme puisque ils arrivent en cours et il n'y a personne en face.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'institution qui est censée les encadrer et les porter vers un avenir est défaillante, tout simplement. Et c'est quelque chose qu'elles ne savaient pas avant d'arriver là. Et je crois qu'elles se prennent vraiment cette réalité de plein fouet. Et d'abord, c'est un peu long de se rendre compte et d'accepter la situation, en fait. Et une fois qu'on l'a acceptée, c'est ça. Ça fait deux fois que je le dis, je crois, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Mais c'est vrai que c'est un sujet assez universel puisque elle se pose la question, elle se dit qu'est-ce qu'on va faire au village, on va nous présenter un fiancé, on va se marier et puis notre vie elle sera faite comme celle-ci, alors sans juger. Et donc elles ont l'espoir de progresser, d'avoir une vie sûrement meilleure que leurs parents déjà.
Ah oui, complètement. L'idée c'est une fois qu'elles atteignent un certain âge et elles se rendent compte du cadre dans lequel elles ont grandi et du carcan, en fait, qu'est cette famille, bien qu'elle soit aimante, et qu'est ce village-là. Et effectivement, elles ont une destinée qui est toute tracée, qui n'est pas en accord avec ce qu'elles elles ambitionnent pour leur propre vie. Donc forcément, il n'y a qu'une solution, c'est s'en aller, c'est de briser la boucle.
Est-ce que vous auriez d'autres... suggestion à faire à cette jeunesse, mais en fait qui représente finalement un espoir, puisque à la fin on voit quand même un drame se passe. Il y a beaucoup de violence aussi hein, dans leurs propos et dans leur façon de manifester.
Bah, c'est vrai que moi mon objectif c'était vraiment de mettre une fenêtre finalement sur cette jeunesse-là, c'est-à-dire de constater cette situation et de la montrer, de la mettre en lumière. Et cette jeunesse, en fait, elle est évidemment fougueuse, elle est en pleine quête identitaire, elle est en pleine construction. Et tout jeune, en fait, à cet âge-là, de toute façon, c'est un âge charnière, c'est comme ce fil tendu entre l'enfance et l'âge adulte finalement. Et le contexte fait que ce fil se rompt à un moment donné. Et je ne sais pas si j'aurais des suggestions pour cette jeunesse-là. Moi, mon but, c'était vraiment de la montrer, de peindre cette réalité-là pour peut-être ouvrir justement le débat et porter une réflexion là-dessus.
Alors, ce qui est bien, c'est que vous avez un regard avec du recul, puisque vous connaissez cette société du Kosovo aussi, et vous avez cette culture française aussi qui vous permet d'avoir un jugement sûrement plus objectif que certains qui seraient qui vivent uniquement au Kosovo.
Oui, je pense que cette double culture, moi j'ai donc grandi au Kosovo, et maintenant je vis vraiment entre la France et le Kosovo. Je pense que cette double culture, c'est une force en fait, c'est une richesse, et que ça m'a permis effectivement d'avoir une forme de distance en fait, qui peut-être me rend plus attentive à certains détails et plus alerte à certaines choses que quand on est plongé dans la quotidienneté du lieu dit, on ne remarque peut-être plus.
Alors vous êtes un peu le porte-voix du Kosovo, en tout cas en France. On imagine que ce film sera distribué dans le monde entier, en tout cas on l'espère, puisqu'en plus il est en version originale et en anglais notamment. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite finalement.
Ah oui, on lui souhaite. Moi c'est vraiment un but pour moi. d'exporter cette histoire le plus possible. On a commencé avec Venise. Je l'ai présenté au Kosovo. Là, c'est la première fois que je le présente en France. Je lui souhaite effectivement un long voyage. On parlait de cet aspect universel, en fait, de cette jeunesse-là. Je pense qu'il y a moyen que cette histoire parle à beaucoup.
Il est prévu pour... Enfin, il devrait sortir en avril 2024, c'est ça ? D'ici là, vous allez faire le tour de la France et peut-être le tour d'Europe ?
Oui, en tout cas, j'ai vraiment envie de l'accompagner le plus possible. C'est comme un petit objet précieux, voilà, que j'ai envie de distribuer au maximum. Donc oui, France, Europe et peut-être même plus loin, j'espère.
En conclusion, voudriez-vous peut-être donner une note d'espoir à toute cette jeunesse qui se pose plein de questions?
C'est une note d'espoir. Non, mais cette jeunesse, je pense juste qu'au-delà de quelque chose de très didactique, moi je sens que dans ma manière de faire, par exemple, à travers les fabrications que je fais de films, cette espèce d'élan, cette spontanéité-là, que j'assume et que j'impose, disons, et j'espère qu'elle est inspirante, en fait, parce que je crois qu'on trouve une forme de liberté dans la création et dans quelques passions que l'on puisse avoir. Et je crois que c'est important de s'y adonner, c'est important de trouver notre liberté là-dedans et de nous construire, d'être et de rester, en tout cas, le plus ouvert d'esprit possible, parce que c'est là qu'on peut voir la lumière.
Merci beaucoup, Louana, et bon vent à ce film, Notre Monde.
Merci à vous, merci.
Que la force soit avec toi, à jamais.
Cinéma Viva, Cinéma Viva. L'univers du cinéma sur Aviva.
Radio Aviva à Montpellier, Lunel et Murviel-et-Montpellier, 88 FM, en DAB+, et partout dans le monde, radio-aviva.com.
Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes, voilà, de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour.